Bonjour à tous, bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, ces lectures sur Canal B. Vous avez bien entendu ces lectures. Pas question d'épiloguer sur la littérature. Ici, on va lire des livres, tourner des pages. Bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Si vous m'écoutez ce soir, dans votre lit peut-être, je vous conseille de remonter encore un peu la couette. Nous prenons la direction de Paris, ses bistrots, ses bas-fonds, et le siège de sa police judiciaire, le 36 quai des Orfèvres. Nous avons de la chance, c'est un vieux grognard de la maison qui nous fait la visite, le commissaire Maigret. L'allure bourrue, amateur de blanquettes de veau, de vin et fumeur de pipe invétéré, notre Sherlock français n'aime pas être pressé. Il préfère s'imprégner des événements, comprendre ses suspects, leur personnalité, tout en se laissant guider par son instinct. Si nous connaissons si bien Maigret, c'est grâce à la littérature et son créateur, Georges Simenon, qui a écrit pas moins de 75 romans et 28 nouvelles entre 1931 et 1972 sur Maigret. Mais c'est aussi grâce au petit écran que nous le connaissons, la télévision que le commissaire a occupée pendant des décennies avec de nombreuses adaptations, dont la plus célèbre, Les Enquêtes du commissaire Maigret et ses 88 épisodes d'une heure et demie diffusés entre 1968 et 1998. Ce soir, je vous invite à découvrir Les Mémoires de Maigret. Publié en 1951, cet opus original raconte la rencontre du commissaire Maigret et d'un jeune journaliste, Georges Sim. Une mise en abîme étonnante du personnage du commissaire par le romancier, sorte de conversation entre la créature et son créateur dans un Paris de l'entre-deux-guerres avec ses truands et ses prostituées. Pour notre lecture du jour, je commence au début du roman. Bonne écoute à tous. C'était en 1927 ou 1928. Je n'ai pas la mémoire des dates et je ne suis pas de ceux qui gardent soigneusement des traces écrites de leurs faits et gestes, chose fréquente dans notre métier qui s'est avérée fort utile à quelques-uns et même parfois profitable. Et ce n'est que tout récemment que je me suis souvenu des cahiers où ma femme, longtemps à mon insu, voire en cachette, a collé les articles de journaux qui me concernaient. À cause d'une certaine affaire qui nous a donné du mal cette année-là, je pourrais sans doute retrouver la date exacte, mais je n'ai pas le courage d'aller feuilleter les cahiers. Peu importe. Mes souvenirs, par ailleurs, sont précis quant au temps qu'il faisait. C'était une quelconque journée du début de l'hiver, une de ces journées sans couleur, en gris et blanc, que j'ai envie d'appeler une journée administrative, parce que l'on a l'impression qu'il ne peut rien se passer d'intéressant dans une atmosphère aussi terne et qu'on a envie, au bureau, par ennui, de mettre à jour des dossiers, d'en finir avec des rapports qui traînent depuis longtemps, d'expédier farouchement, mais sans entrain, de la besogne courante. Si j'insiste sur cette grisaille dénuée de relief, ce n'est pas par goût du pittoresque, mais pour montrer combien l'événement en lui-même a été banal, noyé dans les menus faits et gestes d'une journée banale. Il était environ 10h du matin. Le rapport était fini depuis près d'une demi-heure, car il avait été court. Le public le moins averti sait maintenant plus ou moins en quoi consiste leur rapport à la police judiciaire. Mais à cette époque-là, la plupart des Parisiens auraient été en peine de dire quelle administration était logée quai des Orfèvres. Sur le coup de 9h, donc, une sonnerie appelle les différents chefs de service dans le grand bureau du directeur, dont les fenêtres donnent sur la Seine. La réunion n'a rien de prestigieux. On s'y rend en fumant sa pipe ou sa cigarette, la plupart du temps un dossier sous le bras. La journée n'a pas encore embrayé et garde pour les uns et les autres un vague relent de café au lait et de croissant. On se serre la main, on bavarde au ralenti en attendant que tout le monde soit là. Puis chacun, à son tour, met le patron au courant des événements qui se sont produits dans son secteur. Certains restent debout, parfois à la fenêtre, à regarder les autobus et les taxis passer sur le pont Saint-Michel. Contrairement à ce que le public se figure, on n'entend pas parler que de criminels. « Comment va votre fille, Priolet ? Ça rougeole ?» Je me souviens avoir entendu détailler avec compétence des recettes de cuisine. Il est question de choses plus sérieuses aussi. Évidemment, par exemple, du fils d'un député ou d'un ministre qui a fait des bêtises, qui continue à les accumuler comme à plaisir et qu'il est urgent de ramener à la raison sans esclandre. Ou bien d'un riche étranger récemment descendu dans un palace des Champs-Élysées et dont le gouvernement commence à s'inquiéter. D'une petite fille ramassée quelques jours plus tôt dans la rue et qu'aucun parent ne réclame, encore que tous les journaux aient publié sa photographie. On est entre gens du métier et les événements sont envisagés du strict point de vue du métier, sans paroles inutiles, de sorte que tout devient fort simple. C'est en quelque sorte du quotidien. Alors, Maigret, vous n'avez pas encore arrêté votre Polonais de la rue de Birag ? Je m'empresse de déclarer que je n'ai rien contre les Polonais. S'il m'arrive d'en parler assez souvent, ce n'est pas non plus qu'il s'agisse d'un peuple particulièrement féroce ou perverti. Le fait est simplement qu'à cette époque, la France, manquant de main-d'œuvre, importaient les Polonais par milliers pour les installer dans les mines du Nord. Dans leur pays, on les ramassait au petit bonheur, village par village, hommes, femmes et enfants. On les entassait dans des trains, un peu comme à d'autres époques, on recrutait la main-d'œuvre noire. La plupart ont fourni des travailleurs de premier ordre. Beaucoup sont devenus des citoyens honorables. Il y en a pas moins eu du déchet. Comme il fallait s'y attendre, et ce déchet, pendant un temps, nous a donné du fil à retordre.
Je l'ai rencontré à Chaussée-d'Antin, dans une ruelle avoisinante. Et elle m'a piégé, tout comme du gibier, et m'a donné son cœur à prendre. Je ne l'ai pas aimé, ne l'ai pas méprisé, je l'avais pris pour une fille tendre. Elle était putain à Chaussée-d'Antin, où les faux amours sont à vendre. Et sur le pavé sexuel parisien, elle fauchait son blé comme une grande. Moi sentimental, ma vendeuse d'amour, autour d'elle je faisais de la romance. Avec un ami, je me promenais et puis j'ai vu ma putain en attente. Croco à la main, qui Chaussée-d'Antin, du gibier attendait la semence. Eh bien, c'est ainsi que j'ai compris la vie, mes illusions étaient à vendre. À cause d'une putain de la Chaussée-d'Antin et des ruelles avoisinantes. Ainsi va la vie, ainsi on la vit, quand on est naïf et trop tendre. On croit que l'amour est toujours propre et gai, et c'est ainsi que l'on se fait prendre. Par une putain ou une dame très bien, en amour y a pas de différence.
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B 94 MHz. Vous venez d'écouter « À Chaussée d'Antin » de Marcel Mouloudji. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture des mémoires de Maigret de Georges Simenon. J'essaye, en parlant ainsi, d'une façon un peu décousue, de mes préoccupations du moment, de mettre le lecteur dans l'ambiance. J'aimerais, patron, le faire filer pendant 2 ou 3 jours encore, mon Polonais. Jusqu'ici, il ne nous a menés nulle part, il finira bien par rencontrer les complices. Le ministre s'impatiente, à cause des journaux. Toujours les journaux. Et toujours en haut lieu la peur des journaux de l'opinion publique. Un crime est à peine commis qu'on nous enjoint de trouver tout de suite un coupable coûte que coûte. C'est tout juste si on ne nous dit pas, après quelques jours, « Fourrez quelques-uns en boîte, qu'importe, en attendant, juste pour calmer l'opinion. » J'y reviendrai probablement. Ce n'était d'ailleurs pas du Polonais qu'il s'agissait ce matin-là, mais d'un vol qui venait d'être commis selon une technique nouvelle, ce qui est rare. 3 jours plus tôt, boulevard Saint-Denis, en plein midi, alors que la plupart des magasins venaient de fermer leurs portes pour le déjeuner, un camion s'était arrêté en face d'une petite bijouterie. Des hommes avaient débarqué une énorme caisse qu'ils avaient posée tout contre la porte et étaient repartis avec le camion. Des centaines de gens étaient passés devant cette caisse sans s'étonner. Le bijoutier, lui, en revenant du restaurant où il avait cassé la croûte, avait froncé les sourcils. Et quand il avait écarté la caisse, devenue très légère, il s'était aperçu qu'une ouverture avait été découpée dans la boîte touchant la porte, une autre ouverture dans cette porte, et que, bien entendu, ses rayons avaient été mis au pillage, ainsi que son coffre-fort. C'est le genre d'enquête sans prestige qui peut demander des mois et qui exige le plus d'hommes. Les cambrioleurs n'avaient pas laissé la moindre empreinte ni aucun objet compromettant. Le fait que la méthode était neuve ne nous permettait pas de chercher dans telle ou telle catégorie de malandrins. Nous avions tout juste la caisse, banale, encore que de grand format, et depuis 3 jours, une bonne douzaine d'inspecteurs visitaient tous les fabricants de caisses et en général, toutes les entreprises utilisant des caisses de grands modèles. Je venais donc de rentrer dans mon bureau où j'avais commencé à rédiger un rapport quand la sonnerie du téléphone intérieur résonna. C'est vous, Maigret ? Vous voulez passer chez moi un instant ? Rien de surprenant non plus. Chaque jour, ou presque, il arrivait au grand patron de m'appeler une ou plusieurs fois dans son bureau, en dehors du rapport. Je le connaissais depuis l'enfance. Il avait souvent passé ses vacances près de chez nous, dans l'Allier, et il avait été un ami de mon père. Et ce grand patron-là, à mes yeux, était vraiment le grand patron dans toute l'acception du terme, celui sous lequel j'avais fait mes premières armes à la police judiciaire, celui qui, sans me protéger à proprement parler, m'avait suivi discrètement et de haut, celui que j'avais vu, vêtu de noir, coiffé d'un chapeau melon, se diriger tout seul, sous les balles, vers la porte du pavillon dans lequel Bonneau et sa bande tenaient tête depuis 2 jours à la police et la gendarmerie. Je veux parler de Xavier Guichard, aux yeux malicieux et longs cheveux blancs de poète. Entrez, Maigret. Le jour était si terne ce matin-là que la lampe à abat-jour était allumée sur son bureau. À côté de celui, dans un fauteuil, je vis un jeune homme qui se leva pour me tendre la main quand on nous présenta l'un à l'autre. Le commissaire Maigret, monsieur Georges Sim, journaliste. Pas journaliste, romancier, protesta le jeune homme en souriant. Xavier Guichard sourit aussi. Et celui-là posséda une gamme de sourires qui pouvait exprimer toutes les nuances de sa pensée. Il avait aussi à sa disposition une qualité d'ironie perceptible pour ceux-là seuls qui la connaissaient bien et qui, par d'autres, le faisaient parfois prendre pour un naïf. Il me parlait avec le plus grand sérieux, comme s'il s'agissait d'une affaire d'importance d'un personnage de marque. Monsieur Sim, pour ses romans, a besoin de connaître le fonctionnement de la police judiciaire. Comme il vient de me l'exposer, une bonne partie des drames humains se dénoue dans cette maison. Il m'a expliqué aussi que ce sont moins les rouages de la police qu'il désire se voir détailler, car il a eu l'occasion de se documenter par ailleurs, que l'ambiance dans laquelle les opérations se déroulent. Je ne jetais que de petits coups d'œil au jeune homme qui devait avoir dans les 24 ans, qui était maigre, les cheveux presque aussi longs que ceux du patron, et dont le moins que je puisse dire est qu'il ne me paraissait douter de rien, et certainement pas de lui-même. « Vous voulez lui faire les honneurs de la maison, Maigret ?» Et, au moment où j'allais me diriger vers la porte, j'entendis le Sim en question prononcer. « Je vous demande pardon, monsieur Guichard, mais vous avez oublié de dire au commissaire... Ah oui, vous avez raison, monsieur Sim, comme il l'a souligné, n'est pas journaliste. » Nous ne courons pas le risque qu'il raconte dans les journaux des choses qui ne doivent pas être publiées. Il m'a promis, sans que je lui demande, de n'utiliser ce qu'il pourra voir ou entendre ici que dans ses romans et sous une forme suffisamment différente pour que cela ne nous crée aucune difficulté. J'entends encore le grand patron ajouter gravement, en se penchant sur son courrier, « Vous pouvez avoir confiance, Maigret, il m'a donné sa parole. »
Je viens d'entendre une chanson entre Pigalle et Blanche, mais il se peut que ce soit aussi entre Blanche et Clichy, quelquefois un poète affamé qui loge près du moulin de la Galette va chanter dans les bars malfamés pour trois thunes au fond de sa casquette. Et c'est comme ça que bien souvent traîne une chanson entre Pigalle et Blanche, qu'on retient sans avoir appris entre Blanche et Clichy. Les voyous ne sont pas si méchants que ça et pourraient faire la pige aux poètes. Ils se ruinent en rose et en lilas, sans compter puisqu'ils ont la galette. Des bons pigeons qui se font piquer tout leur pognon entre Pigalle et Blanche, et n'auront rien, mais rien compris entre Blanche et Clichy. Ceux qui viennent renifler dans ce coin-là tout l'amour qui traîne sur le macadam et marchandent les filles à soldats feraient mieux de prier pour leur âme, car c'est pour eux qu'elles ont perdu leurs illusions entre Pigalle et Blanche. Leur cœur est puits autre chose aussi entre Blanche et Clichy. Sur les bancs tout au long du boulevard, loin de tout, loin des joies défendues, il y a des anges dont les yeux trop bavards parlent d'amour au milieu de la cohue. Des mômes heureux qui ont gardé leurs illusions entre Pigalle et Blanche, et croit encore au paradis entre Blanche et Clichy. Entre Blanche et Clichy.
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous faites bien. Vous venez d'écouter Patachou entre Pigalle et Blanche. C'est parti pour la troisième et dernière lecture du jour, toujours dans le sillage du commissaire Maigret et du jeune journaliste, ou plutôt romancier, Georges Sim. « N'empêche que Xavier Guichard s'était laissé embobeliner, je le sentais déjà et j'en ai eu la preuve par la suite. Pas seulement par la jeunesse audacieuse de son visiteur, mais pour une raison que j'ai connue que plus tard. Le patron, en dehors de son service, avait une passion, l'archéologie. Il faisait partie de plusieurs sociétés savantes et avait écrit un gros ouvrage que je n'avais pas lu sur les lointaines origines de la région de Paris. Or, notre cime le savait, je me demande si c'était par hasard et avait eu soin de lui en parler. Est-ce à cela que je dus d'être dérangé personnellement ? Presque chaque jour, quelqu'un se voit octroyer au quai la corvée de visite. La plupart du temps, il s'agit d'étrangers de marque ou appartenant plus ou moins à la police de leur pays, parfois simplement des lecteurs influents venus de province et exhibant fièrement une carte de leur député. C'est devenu une routine, c'est tout juste si, comme pour les monuments historiques, il n'existait pas un petit laïus que chacun a plus ou moins appris par cœur. Mais, d'habitude, un inspecteur fait l'affaire. Et il faut qu'une personnalité commence à être de première grandeur pour qu'on dérange un chef de service. « Si vous voulez, proposais-je, nous monterons d'abord au service anthropométrique. À moins que cela vous dérange beaucoup, je préférerais commencer par l'antichambre. » Ce fut mon premier étonnement. Il disait cela gentiment, d'ailleurs, avec un regard désarmant, en expliquant « Vous comprenez, je voudrais suivre le chemin que vos clients suivent d'habitude. Ben, » dans ce cas, il faudrait commencer par le dépôt, car la plupart y passent la nuit avant de nous être amenés. » Et lui, tranquillement de me répondre, « J'ai visité le dépôt la nuit dernière. » Il ne prit pas de notes, il n'avait ni carnet ni stylo. Il resta plusieurs minutes dans la salle d'attente vitrée où dans les cadres noirs sont exposées les photographies des membres de la police tombés en service commandé. « Combien en meurt-il par an en moyenne ?» Puis il demanda à voir mon bureau. Or, le hasard voulut qu'à cette époque, des ouvriers fussent occupés à réaménager celui-ci. J'occupais provisoirement, à l'entresol, un ancien bureau du plus vieux style administratif, poussiéreux à suet, avec des meubles en bois noir et un poêle à charbon du modèle qu'on voit encore dans certaines gares de province. C'était le bureau où j'avais fait mes études, mes débuts en quelque sorte, où j'avais travaillé pendant une quinzaine d'années comme inspecteur, et j'avoue que je gardais une certaine tendresse à ce gros poêle dont j'aimais, l'hiver, voir la fonte rougir et que j'avais pris l'habitude de charger jusqu'à la gueule. Ce n'était pas tant une manie qu'une contenance, presque une ruse. Au milieu d'un interrogatoire difficile, je me levais et commençais à tisonner longuement, puis à verser de bruyantes pelletées de charbon, l'air bonasse, cependant que mon client me suivait des yeux déroutés. Et il est exact que, lorsque j'ai disposé enfin d'un bureau moderne, muni du chauffage central, j'ai regretté mon vieux poêle, mais sans obtenir, sans même demander, ce qui m'aurait été refusé, de l'emmener avec moi dans mes nouveaux locaux. Je m'excuse de m'attarder à ces détails, mais je sais plus ou moins où je veux en venir. Mon hôte regardait mes pipes, mes cendriers, l'horloge de marbre noir sur la cheminée, la petite fontaine d'émail derrière la porte, la serviette qui sent toujours le chien mouillé. Il ne me posait aucune question technique, les dossiers ne paraissaient pas l'intéresser le moins du monde. Par cet escalier, nous allons arriver au laboratoire. Là aussi, il contempla le toit en partie vitré, les murs, les planchers, le mannequin dont on ne se sert que pour certaines reconstitutions. Mais il ne s'occupa ni du laboratoire proprement dit, avec ses appareils compliqués, ni du travail qui s'y faisait. Par habitude, je voulus expliquer. En agrandissant quelques centaines de fois n'importe quel texte écrit en comparant « je sais, je sais ». C'est là qu'il me regarda négligemment. « Vous avez lu Hans Gross ?» Je n'avais jamais entendu prononcer ce nom. J'ai su par la suite qu'il s'agissait d'un juge d'instruction autrichien qui, vers 1880, occupa la première chaire d'instruction criminelle scientifique à l'université de Vienne. Mon visiteur, lui, avait lu ces deux gros volumes. Il avait tout lu, des quantités de livres dont j'ignorais l'existence et dont il me citait les titres d'un ton détaché. Suivez-moi dans ce couloir que je vous montre les sommiers où sont rangées les fiches de « Je sais, je sais ». Il commençait à m'impatienter. On aurait dit qu'il ne m'avait dérangé que pour regarder des murs, des plafonds, des planchers, que pour nous regarder tous avec l'air d'effectuer un inventaire. À cette heure-ci, nous allons trouver foule à l'anthropométrie. On doit en avoir fini avec les femmes, c'est le tour des hommes. Il y en avait une vingtaine, tout nus, ramassés au cours de la nuit, qui attendaient leur tour de passer à la mesuration et à la photographier. « En somme, me dit le jeune homme, il ne reste qu'à voir l'infirmerie spéciale du dépôt. » Je fronçais les sourcils. « Les visiteurs n'y sont pas admis. » C'est un des endroits les moins connus où les criminels et les suspects passent devant les médecins légistes un certain nombre de tests mentaux. « Paul Gourbet avait l'habitude d'assister aux séances », me répondit tranquillement mon visiteur. « Je demanderai l'autorisation. » En définitive, je n'en gardais qu'un souvenir banal, banal comme le temps de ce jour-là. Si je ne m'arrangeais pas pour abréger la visite, c'est d'abord à cause de la recommandation du grand patron, ensuite parce que je n'avais rien d'important à faire et que cela tuait quand même un certain nombre de minutes. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, les mémoires de Maigret de Georges Simenon sont éditées par la Presse de la Cité. Merci pour votre attention, chers auditeurs. L'émission est à réécouter comme d'habitude en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.